On va partager ensemble quelques versets dans l'Écriture et la pensée que je vais partager avec vous, je l'avais préparée pour une réunion de prière. En fait, c'était un message pour une réunion de prière. Et quand j'ai eu fini, je me suis dit c'est quand même dommage qu'il n'y ait que ceux qui seront là à la réunion de prière, qui puissent entendre ce message-là. Alors en fait, j'avais deux solutions. Soit je transportais le message de la réunion de prière au culte, soit je transportais l'auditoire du culte à la réunion de prière. Alors j'ai plutôt pensé faire ça. Donc en fait, on est vendredi après-midi ou vendredi soir, plus vendredi après-midi vu le temps, et vous êtes à la réunion de prière. D'accord ? Moi, ça me fait drôle de voir tout ce monde à la réunion de prière. Ça me perturbe. Hein, j'ai pas l'habitude. Hein, mais je dis merci Seigneur. Hein. Non, vous allez voir ce que ça fait d'être à une réunion de prière. C'est vraiment bien. Surtout par rapport au thème que l'on développe et au thème que l'on aborde. Donc, on va aller lire quelques passages dans l'Ancien Testament, tout d'abord. Deux passages qui se trouvent dans le premier, le livre d'Ésaïe. J'espère que vous avez une Bible parce qu'il y a beaucoup de passages que nous allons partager et ils ne sont pas forcément écrits tout en entier sur l'écran, mais ce serait bien que l'on puisse les lire malgré tout. Donc, le premier, c'est un verset, chapitre 59 du livre d'Ésaïe et verset 16. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas un pasteur qui prêcherait à la réunion de prière, d'autant plus que ce n'est pas à la réunion de prière qu'il faudrait prêcher ça, puisque ceux qui sont là sont là. C'est à ceux qui ne seraient pas là qu'il faudrait dire une telle chose. Mais donc, quand même, Dieu s'adresse à l'Église, l'Église avec un grand E, au peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est au peuple d'Israël, bien évidemment. Et on transpose cela pour nous à l'Église. Il dit ceci, « Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. » Constat que Dieu fait. Un peu plus loin, Ézéchiel, chapitre 22 et verset 30. Ézéchiel, chapitre 22 et verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu n'a pas dit je cherche 1000 hommes, hommes ou femmes. Je cherche 5000 personnes, j'en cherche un, et je n'en trouve pas. Alors, manifestement, et j'ai regardé dans une concordance, alors on a différentes concordances, mais il y a une concordance qui a été faite avec l'aide d'un ordinateur, la concordance du Québec, alors elle n'est peut-être pas totalement complète, mais dans cette concordance-là, avec nos traductions, c'est-à-dire second en général, j'ai comparé le nombre de fois où apparaissait le verbe ou le mot intercéder, intercession. Intercéder. Parce que vous avez remarqué que c'est le mot qu'on retrouve dans les deux passages qu'on a lus. Dans Ésaïe, il est dit « personne n'intercède, Dieu est étonné ». Et dans Ézéchiel, « je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche, je n'en trouve pas ». L'idée du combat, l'idée de la bataille. Donc, intercéder, intercession, dans la Bible, vous ne le trouvez que 17 fois. Le verbe « prier », alors je ne parle pas d'invoquer tous les synonymes, hein, je parle juste du verbe « prier ». Là, il n'y a pas le mot « prière », parce qu'évidemment, ça allonge la liste. Mais au moins, le verbe « prier », on le retrouve 192 fois. Intercéder 17 fois, 16 exactement, une fois intercession. 16 intercéder, 192 fois prier. Vous serez peut-être d'accord avec moi qu'il doit y avoir une différence entre intercéder ou prier. Sinon, l'un n'existerait pas au profit de l'autre, si c'était le même mot. Manifestement, ce n'est pas la même chose. Et il y a, dans la Bible, on s'en rend compte, une vraie différence. entre prier et intercéder, la preuve, quand Dieu en parle 17 fois, 16 fois d'un côté, 192 fois de l'autre, ça montre bien que des gens qui prient, on en trouve beaucoup, des gens qui intercèdent, on n'en trouve pas et Dieu en cherche. Alors je m'adresse à vous qui êtes à la réunion de prière aujourd'hui et je vous dis, Dieu cherche des intercesseurs, pas que des gens qui prient, pas que des gens qui vont invoquer Dieu simplement, mais des intercesseurs. Alors on va aller un peu plus dans le détail de ce que pourrait signifier l'intercession. L'intercession, j'ai noté, un engagement total, un engagement entier, une prise de conscience spirituelle. Tout d'un coup, il y a des vérités spirituelles qui apparaissent à nos yeux, mais flagrantes. Ça saute à nos yeux, c'est une réalité. Et d'un coup, on comprend ce qui se passe dans l'invisible, on comprend ce qui se passe dans l'éternité, des choses que l'on ne voit pas avec nos yeux, mais qui nous poussent à faire plus que prier. Intercéder, c'est, selon le dictionnaire, intercéder, c'est intervenir en faveur de quelqu'un, défendre quelqu'un, parler en faveur de quelqu'un, c'est s'entremettre, se mettre au milieu, si vous voulez, s'entremettre. On peut comprendre que, dans le fond, derrière cet engagement, c'est comme si l'intercession était une prière, mais une prière intense. Une prière qui ne sera pas juste une prière de quelques instants, de quelques minutes, mais ça va au-delà. C'est un engagement qui est visiblement beaucoup plus dynamique, beaucoup plus entier, beaucoup plus total. Un engagement. J'ai toujours été étonné par le témoignage de quelques grands hommes de Dieu, grands par le travail qu'ils ont accompli, et notamment deux me viennent à l'esprit, Adoniram Judson, un homme qui a voulu évangéliser la Birmanie, à une époque où en Birmanie, les Anglais n'étaient pas forcément bienvenus, bien que ce soit un comptoir anglais du temps de la colonisation. Mais évidemment, les Birmans étaient fiers de leur roi, fiers de leur État. Et inutile de vous dire que le christianisme, c'était 0%, 0,000, rien. Et quand cet homme a été là-bas pour annoncer l'évangile en Birmanie, dès qu'il est arrivé sur le quai, en sortant du bateau, le responsable du port, qui était un Anglais comme lui, voyant ce jeune homme arriver avec sa jeune épouse, il venait de finir leur voyage de noces, quand il les a vus débarquer, 20 et quelques années, il leur a dit « Monsieur, je vous donne un conseil, fuyez, partez, ne restez pas là. Cette terre sera un enfer pour vous et un sépulcre, un tombeau pour vous. » Et cet homme est resté. Mais croyez-moi que l'intercession, quand vous lisez son histoire, ça vous arrache les tripes, hein, parce qu'il a sacrément prié et drôlement intercédé pour espérer voir des gens se convertir. Il en a vu très peu. Et d'ailleurs, quand il est mort, il a souhaité que ses cendres soient répandues dans les eaux de cette mer de Chine, là où il avait consacré sa vie. Mais tout cela pour vous dire que l'intercession. Un autre homme, beaucoup plus à peu près dans les mêmes temps, lui a décidé d'intercéder en faveur de l'Amérique, en faveur des États-Unis. On n'est pas du tout dans le même contexte, on n'est pas dans la même situation. Cet homme s'appelle Nash et cet homme a décidé de soutenir les missions d'évangélisation de cet évangéliste qui s'appelait Moody. Et à chaque fois qu'une mission devait avoir lieu quelque part, il y allait quelques jours plus tôt. Il trouvait un endroit où pouvaient se tenir les réunions, la mission. Et puis après, en général, il n'assistait jamais aux missions, jamais. Il n'était jamais à l'endroit où il se passait des choses, où il y avait des miracles, où il y avait des centaines de conversions. Il n'était jamais là. Il était là avant, mais il n'était pas là pendant. En fait, il n'était pas à cet endroit-là pendant, mais il était quand même dans la ville pendant ce moment-là. Et où était-il ? Dans une chambre quelconque, dans une petite chambre, ou dans une cave, ou dans un endroit. Et pendant tout ce temps-là, il ne faisait qu'intercéder pour que Dieu bénisse ces moments-là. Plus tard, quand il mourra, on a gardé peu de choses de lui, apparemment sa pierre tombale et apparemment une photo. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de livre qui raconte son histoire. Il avait été pasteur pendant de nombreuses années et pendant presque une dizaine d'années, il a soutenu le ministère de Moody. Et Moody dira de lui, jamais, vous entendez, jamais, mon ministère n'aurait été ce qu'il avait été s'il n'y avait pas eu un intercesseur comme cet homme-là. Ce n'était pas juste quelqu'un qui priait, c'était un intercesseur. Et d'ailleurs, un jour, on viendra trouver Moody, c'est l'aubergiste, une femme qui était patronne de l'hôtel et qui ira le trouver le premier jour de la mission en disant « Écoutez, excusez-moi, mais il faut que vous veniez parce qu'il y a des gens de votre mission dans mon hôtel, ils sont arrivés la semaine dernière. » Lui savait de qui il s'agissait, ils étaient deux. « Et écoutez, je crois qu'ils ne vont pas bien. Vous devriez venir. Ah bon, pourquoi ?»« Mais écoutez, ça fait des jours que je ne les ai pas vus. Et quand je m'approche de la chambre, je les entends gémir, crier. Je pense qu'ils ne vont vraiment pas bien. Vous devriez venir. » Ils intercédaient. Ils intercédaient. Cette femme a eu peur. Elle s'est dit, ils vont mourir dans mon hôtel. C'est une mauvaise publicité. Donc venez faire quelque chose. Et cet homme l'a rassurée en disant, ne vous inquiétez pas. Ils vont précisément très bien. Ils vont très bien et vous n'avez pas à vous en faire pour eux. C'est quand même des témoignages qui vous retournent, ça, quand même. Et ce n'étaient pas des surhommes, soit dit en passant, c'était des gens totalement normaux. Alors, je pense que quand on prie, vous comme moi, on a à cœur qu'il y ait un résultat, n'est-ce pas? Parce que s'il n'y a pas de résultat, c'est décourageant. S'il y a peu de résultats, ce n'est pas encourageant. Si ça ne marche pas comme on le souhaite, c'est quand même désolant. Donc, quelquefois, on s'est rendu compte que c'était une question de vie ou de mort. Vous imaginez que celui pour qui vous priez et qui n'a pas connu la grâce de Dieu, qui n'a pas fait la paix avec Dieu, il est destiné, malheureusement, parce qu'il a fait son choix, à aller en enfer. Mais quand je pense à ça, ça pourrait nous empêcher de dormir quand même. C'est une question de vie ou de mort. Alors, intercéder et demander à Dieu, supplier Dieu de faire quelque chose, c'est quand même nécessaire. Il y a un exemple, je vais peut-être en faire une interprétation, permettez-moi malgré tout un petit peu parallèle, mais je voudrais qu'on lise le texte ensemble, c'est dans l'évangile de Luc. Chapitre 11, verset 5, sur la persévérance dans la prière, ce que pour moi semble signifier réellement l'intercession. Dieu cherche ce matin, non pas des gens qui prient, mais des gens qui intercèdent. Des frères et sœurs, une église qui intercède au-delà de la prière. Luc chapitre 11, verset 5. Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner les pains. Je vous le dis, quand même, il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. » Et moi, je vous dis, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. On va étendre cette prière, non pas pour les chrétiens qui prieraient pour eux-mêmes, mais pour l'Église qui prie pour ceux qui sont dehors, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a un mot qui est quand même assez surprenant dans ce passage, c'est importunité. Importunité. Il y a l'opportuniste, et l'importun, ce n'est pas la même chose. L'opportuniste va saisir l'occasion quand elle se présente et ça se passe bien, formidable. Il a su être opportuniste, c'est bien. L'importun, c'est pour ça que c'est assez étrange de le trouver dans ce contact, dans cette relation de l'homme avec Dieu. Parce qu'en fait, un importun, c'est quelqu'un de gênant. C'est quelqu'un de dérangeant. C'est quelqu'un d'embêtant, c'est quelqu'un d'énervant, un importun, c'est quelqu'un de fatigant, un importun. Donc, c'est tout ce qu'on voudra jamais être, non? Moi, je n'ai pas envie d'être gênant, je n'ai pas envie d'être dérangeant, je n'ai pas envie d'être fatigant pour les autres, absolument pas. Et je n'ai surtout pas envie d'être fatigant pour Dieu, d'être dérangeant, énervant pour Dieu, surtout pas, surtout pas. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Quelqu'un est très embêté parce que des amis sont arrivés à l'improviste et il n'a pas de quoi les nourrir. Bien aimé, plaise à Dieu que viennent à l'improviste des dizaines de gens affamés dans l'église. Des dizaines, vous entendez? Peut-être même des centaines. Ce n'est pas grave s'ils viennent à l'improviste. Ce qui est grave, c'est qu'on n'ait rien à leur donner à manger. Ça, ce serait grave, qu'on n'ait rien à leur donner à manger. Alors, il sera toujours temps d'aller frapper à la porte d'un voisin pour lui dire « il faut que tu m'aides ». Je ne vois pas trop comment c'est possible d'ailleurs. Si quelqu'un vient et a besoin de réconfort, vous n'allez pas lui dire « écoute, moi, je ne sais pas quoi te dire, mais je vais chercher quelqu'un qui saura quoi te dire ». J'aurais honte à ma place si je devais faire cela. J'aurais honte pour moi-même en disant « je suis désolé, je n'ai rien à te donner ». Et je ne suis pas sûr que je pourrais lever les yeux vers le ciel en élevant des mains pour prier en disant « j'ai l'impression que tout va bien dans ma relation avec Dieu ». Quelque chose qui cloche. Il faut être prêt. Il faut avoir ces pains-là. Alors, il ne les avait pas. Il ne les avait pas, ces pains. Alors, il a été dérangé, son voisin. Et le voisin, il n'est pas du tout prêteur, hein, vous avez remarqué. Plutôt, il n'est pas du tout insomniaque, il dormait très bien. Et quand l'autre vient le déranger au milieu de la nuit, le temps qu'il se réveille et qu'il comprenne ce qu'il est en train de se passer, il lui dit « mais t'es malade ou quoi? Rentre chez toi! Je ne vais jamais me lever pour te donner des pains !» Il faut dire qu'à l'époque, les maisons étaient faites qu'en général, les animaux pouvaient dormir à l'intérieur de la maison. Donc, c'est-à-dire que lui dormait sur un endroit qui était peut-être un petit peu surélevé, profiter de la chaleur du bétail. Donc, ça veut dire se lever, essayer d'enjamber la chèvre, l'agneau, le mouton, etc. Bref, sans forcément de la lumière, ce n'est pas tellement pratique. Hein. Donc, de l'intérieur de la maison, il lui dit « on est couchés, ma femme, mes enfants, on est tous couchés, débrouille-toi, hein, tu te débrouilles ». Sauf que l'autre, il est tellement mal qu'il frappe, qu'il frappe, qu'il frappe, qu'il frappe. Et l'autre, il a compris qu'il ne s'en sortirait pas, quoi. Parce qu'à la porte, il y a quelqu'un qui est agaçant. À la porte, il y a quelqu'un qui est énervant. À la porte, il y a quelqu'un qui l'ennuie. Il y a quelqu'un qui est vraiment désagréable. Il se montre désagréable. Il est, voire même, à le tourmenter. Alors finalement, il craque. Il dit « ok, 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 allez, c'est bon, laisse tomber, je viens ». Il a enjambé l'agneau, la chèvre, etc. Il est arrivé peut-être sans trop de dommages. Il lui a donné les pains, il lui dit « allez, bon appétit, laisse-moi tranquille ». Mais derrière cette histoire, moi je veux faire un parallèle. Parce que si je n'ai pas envie de déranger Dieu, il y en a un autre que j'ai envie de déranger. Ouais. Il y en a un autre que j'ai vraiment envie de déranger. Si je n'ai pas envie d'être agaçant pour Dieu, il y en a un autre pour qui j'aimerais bien être agaçant. S'il était possible de tourmenter quelqu'un, ce n'est pas Dieu que je voudrais tourmenter, c'est le diable. C'est le diable. Lui, je voudrais le déranger. Vous vous rendez compte que quand Jésus a envoyé ses disciples deux par deux pour aller annoncer le royaume de Dieu, quelque part en Palestine, quand ils sont revenus au bout de la mission, ils étaient fous de joie. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient les démons chassés, ils voyaient les malades guéris, le royaume des cieux était manifestement à l'œuvre. Mais que voyait Jésus? Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Chaque fois qu'il y avait une guérison, c'était une défaite pour le diable. Chaque fois qu'il y avait une délivrance, c'est une défaite pour le diable. Chaque fois qu'il y avait une conversion, c'était une défaite pour le diable. Et si l'un était tourmenté dans ces moments-là, c'était l'ennemi de nos âmes. C'était lui. Alors, évidemment, chacun a sa place. Évidemment, je ne vais pas prendre une épée et aller combattre le diable. D'ailleurs, dans le livre de Jude, vous en avez quelques-uns qui injuriaient les gloires, dit l'apôtre. Et il les reprendra en disant « ne parlez pas des choses spirituelles avec autant de légèreté parce que vous ne savez pas où vous mettez les pieds ». Parce que même l'archange, lorsqu'il contestait le corps de Moïse, n'a pas osé porter un jugement injurieux contre Satan, mais il lui a dit que le Seigneur te réprime. Alors on n'est pas en train de prendre un cheval pour aller combattre le diable, mais on veut juste passer du temps de la prière au temps de l'intercession, bien-aimé. Et si vous pouvez prier tant que vous voulez, quelquefois j'ai l'impression que nos prières n'agacent pas le diable, ne le fatiguent même pas, ne le dérangent en aucune manière. J'ai l'impression qu'il est très satisfait de ce qu'on fait, et il pourrait même nous dire « continuez comme ça, ça me va très bien ». Quand l'Église entre, me semble-t-il, dans autre chose que la simple prière, mais dans une prière totale, un engagement total, et comme une révélation, une prise de conscience spirituelle de l'enjeu, je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai l'impression que là, l'Église devient dérangeante. Là, l'Église devient tourmentante, s'il était possible, parce que notre ami, c'est Dieu, évidemment, et notre ennemi, c'est Satan. Notre ami, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu, pas de problème. On ne veut pas être dérangeant. Tandis que quand je ne fais pas mon travail, quand je ne prie pas comme je devrais, c'est-à-dire quand je n'intercède pas, quand je ne suis pas là où Dieu m'attend, ça, c'est dérangeant pour lui. Et je ne m'en rends même pas compte. Ça, ça l'afflige. Ça, ça peut l'attrister. Et je ne m'en rends même pas compte. Et le diable se frotte les mains en disant « Elle est belle, cette église, continuez comme ça. Tout va bien pour moi. » Quelqu'un a dit un jour, c'est un missionnaire. Cet homme a vécu des dizaines d'années en Afrique, Robert Lowe. Il dira ceci, « La prière d'intercession est un instrument puissant, non pas pour que la volonté de l'homme soit faite au ciel, mais bien pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. » Vous entendez ? La prière d'intercession est un instrument puissant, non pas pour que la volonté de l'homme soit faite au ciel, on ne commande pas à Dieu de faire quelque chose, mais pour qu'enfin la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Quand Jésus dira « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru », il parle de quoi ? De délivrance, de bénédiction, de guérison, de manifestation puissante, le royaume de Dieu qui s'approche. Et qu'est-ce qu'on voit ? Et qu'est-ce qu'on constate ? Que c'est difficile, que c'est compliqué ? Comment cela serait-il possible ? Et qu'est-ce qui manque le plus, dans le fond, à ma prière ? Qu'est-ce qu'il manque le plus à ma prière ? Alors, on va regarder quelques exemples. Évidemment, premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de Jésus. Et j'ai dit que celui qui intercède plus qu'il ne prie va à un moment donné forcément s'identifier à celui qui est malade. Il va s'identifier au malade. Il y a plusieurs passages, Ésaïe par exemple, que vous avez à l'écran, mais on va le lire tout en entier ce passage, et il y en a d'autres que je vais vous lire les uns à la suite des autres. D'accord ? Et vous faites la relation, la connexion entre tous ces passages. On les lit ensemble. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Cependant, regardez bien, si vous regardez également à l'écran, toutes les paroles que j'ai mises en rouge. Hein. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. On va aller dans l'Épître aux Hébreux maintenant. Épître aux Hébreux, plusieurs passages. Tout d'abord, chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Chapitre 5, versets 7 et 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Chapitre 7, enfin, verset 25. C'est aussi pour cela, à cause de tout ce qu'on vient de dire, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour, qu'est-ce qu'il est écrit ? Intercéder en leur faveur. Intercéder en leur faveur. Il s'est entremis, il s'est mis au milieu, il a défendu votre cause. Si vous êtes sauvés, c'est grâce à lui. Si nous sommes sauvés, c'est grâce à lui. Si nous sommes là, c'est grâce à lui. Et autour de nous, ceux qui meurent n'ont pas besoin que l'on prie simplement. Ils ont besoin que l'on intercède. Est-ce que j'ai pris conscience du drame qui habite la situation de mon voisin, de mon frère, de ma sœur, d'un parent quelconque? Est-ce que j'ai pris conscience de ça? Est-ce que j'en ai pris conscience? Dans une lettre également de l'apôtre Paul aux Corinthiens, il y a deux passages. J'aurais pu vous citer les passages, ils étaient écrits également à l'écran. Alors, il ne veut pas venir, le dernier, voilà. Il souffrit, souffrance, tenté, grand cri, larmes, prières, supplications, exaucées, obéissance par les choses qu'il a souffertes. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Et 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Pour vous, pour moi, il a quitté le ciel, les honneurs, la gloire, la tranquillité. Il est venu mourir à la croix pour me sauver. Quand même, bien-aimé, dans le jardin, quand il prie pendant des heures, ça a duré des heures, puisque régulièrement, à intervalles, il est venu vers les disciples qui, à chaque fois, dormaient. Vous n'avez pas pu prier une heure avec moi ? Ben, apparemment pas. C'était trop compliqué, c'était trop difficile. Quand même, quand il a invoqué son Père pour moi, pour toi, pour nous, dans le jardin, des grumeaux de sang perlés de son front. Un jour, on a questionné un chirurgien obstétricien, et cet homme a constaté, notamment lors d'un accouchement, qu'une femme venait de malheureusement vivre quelque chose de dramatique. Tous les vaisseaux, pratiquement une grande partie des vaisseaux sanguins au niveau du visage, avaient éclaté sous la douleur. Et quelque part, elle transpirait du sang. Et ça n'avait rien de grave, C'était juste pour montrer l'intensité de la douleur. Et quand cette personne a vu cela, elle s'est souvenue de ce qui s'est passé dans le jardin. Alors, ce n'est pas un miracle bizarre. Oh, il y a du sang qui... Non, c'est pour vous compreniez l'intensité du combat, l'intensité de l'intercession, ce que ça lui a coûté d'aller jusque-là dans l'intercession. Alors, je ne crois pas, vous comme moi d'ailleurs, évidemment, nous ne croyons pas qu'il soit possible... De vivre des moments comme ça sans s'identifier avec le malade. Ce n'est pas possible. Tant que je n'ai pas conscience de ce que l'autre est en train de vivre, je prie. J'ai du mal à intercéder, je ne vois pas. Mais d'ailleurs, on n'a jamais autant intercédé, plus que prié d'ailleurs, quand on est concerné. Parce que là, on sait ce qu'on vit. Là, on le sait, donc on en mesure toute la peine, toute la difficulté, toute la souffrance. Alors, on y va, là, on prie. Et plus, on intercède. Mais prenons l'exemple de Jésus. Il a pu intercéder. Pourquoi ? Parce qu'il s'est donné pour ça. Il s'est donné. Frères et sœurs, des gens qui prient, on en trouve. Des gens qui intercèdent, c'est plus compliqué. Parce que ça veut dire un investissement, beaucoup plus d'investissement. Le cœur. Plus que la formalité, j'ai l'habitude, je sais, je le fais tous les jours un petit peu. On entre dans une autre dimension, me semble-t-il. Et si on entre dans cette nouvelle dimension, c'est également une expérience extraordinaire que l'on en retirera. Quelques exemples bibliques, on va très rapidement lire ces versets, et puis j'arriverai à ma conclusion. Quelques exemples. Moïse. Lisez avec moi le passage, si vous voulez. Moïse, Deutéronome, chapitre 32, verset 10. Moïse a quand même vécu des choses terribles avec le peuple d'Israël. Il a été choisi par Dieu pour mener le peuple d'Israël à bon port. Et vous savez que pendant des dizaines d'années, ce n'était pas de sa faute, hein, mais pendant des dizaines d'années, ils ont traîné dans le désert. Vous savez que le désert dans lequel ils ont voyagé, il n'était pas sponsorisé par Jet Tour. Hein. Non, non. Ce n'était pas Nouvelle Frontière hein, qui sponsorisait le voyage. Hein. Ce n'était pas terrible le voyage dans le désert. On en a parlé il y a quelque temps. Mais il suffit de lire le verset 10 pour comprendre, dans la bouche même de Moïse, il dira ceci en parlant de Dieu et de sa relation avec le peuple d'Israël. Il l'a trouvé, ce peuple-là, dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Ça vous dit quelque chose, ça ? Une solitude aux effroyables hurlements. Ça veut dire que dans le désert, il y en a quelques-uns qui ont dû être pris de crise de panique. Hein. Il y a dû avoir des situations épouvantables. Et puis, ils ont vécu des choses difficiles, à tel point qu'à un moment donné, ils ont même fabriqué une idole, un veau d'or. Mais Moïse était retourné par cette situation-là, tellement retourné, il faut l'entendre, comprendre ce qui s'est passé. C'est qu'à cause de cela, il a été prêt à se sacrifier pour les autres. Je ne sais pas si on aurait été prêt à faire cela. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, alors que Dieu dit « J'en ai marre de ce peuple, j'en ai marre, je vais tous les détruire. » Moïse va intercéder. Il ne va pas prier. Hein. Il va intercéder pour le peuple. Et au chapitre 32 et au verset 32, il dira ceci « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon « Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Si tu les détruis, tu me détruis avec eux. Ben, » je ne sais pas vous, mais après tout ce qu'il a passé, tout ça pour mourir à cause d'eux, moi je ne suis pas d'accord. Hein. Je dis chacun paye pour ses fautes. Hein. Après tout, c'est biblique. Hein. Chacun paye pour ses fautes, moi je ne vais pas payer pour eux. Hein. Et lui, il va jusque-là. À dire, si tu les détruis, je ne veux pas vivre, tu me détruis moi aussi. Mais quand tu m'effaces, quand il dit tu m'effaces de ton livre de vie, ça ne veut pas dire juste tu me fais mourir. Hein. Ça veut dire je ne veux pas aller au ciel avec toi, j'irai en enfer comme les autres. C'est ça que ça veut dire. Vous imaginez un instant ? Non, on ne se rend pas compte. Hein. Vous imaginez ? Ce n'est pas juste j'en ai marre de vivre, il me fatigue, fais-moi mourir, je serai mieux avec toi au ciel. Non, je ne veux même pas aller au ciel. J'irai en enfer avec eux, tant pis. Ça, c'est l'intercession, certainement. Vous avez un autre exemple qui est aussi flagrant, c'est celui de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 9, il témoigne de sa souffrance de voir les Juifs comme lui qui ne veulent pas du message du salut. Et il dit ceci au verset 1er, Romains chapitre 9, verset 1er, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. » Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. J'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, etc. etc. » Il est en train de dire, « Seigneur, » et là, pour moi, il n'est pas en train de prier, il est en train d'intercéder. Il dit, « Seigneur, Seigneur, j'échange mon salut pour le leur. » Vous entendez ? J'échange mon salut pour le leur. J'accepte d'aller en enfer pour l'éternité pour que eux, ils aillent au ciel. Mais qui est capable de dire un truc pareil ? Qui serait capable dans ce lieu de dire ça ? J'accepte d'aller en enfer, après tout ce que ça vous a coûté, pour que mon voisin, que je ne connais même pas, qui ne me dit jamais bonjour, quelqu'un de ma famille qui ne me supporte pas, qui se moque de ma foi tout le temps, je prie pour que lui change, qu'il soit sauvé, et je suis d'accord d'échanger sa place contre la mienne. Vous vous rendez compte ? ils s'identifiaient à l'enfer qu'allaient vivre ces gens-là, ils s'identifiaient à la condamnation, ils s'identifiaient au malheur qui les attendait. Ils ne faisaient qu'un seul corps avec cette détresse-là. Et pour eux, ce n'était pas compatible, ce n'était pas possible. Alors ils ont lutté, alors ils ont bataillé, alors ils ont prié. Les prophètes, eux, en général, avaient plutôt l'habitude de vivre concrètement cela. Ils imageaient cela par leur vie. Ce qu'Ésaïe a vécu au chapitre 20 nous est rapporté, c'est quand même terrible. Il va devoir vivre pendant 3 ans. Dieu lui dira, tu ne gardes que ta chemise et tu enlèves tes chaussures. Donc tu vas marcher pieds nus et juste avec une tunique, une chemise, c'est considéré comme un sous-vêtement. Donc pas de manteau, rien du tout. Tu vas rester comme ça pendant 3 ans. 3 ans, tu vas te balader dans la rue, dans la ville. Je ne veux plus que tu t'habilles comme un honnête homme, comme quelqu'un de normal. Tu vas t'habiller comme un esclave, c'était la tenue de l'esclave, pas de chaussures, pratiquement à moitié nu. Et le texte, d'ailleurs, le traduit quand même ainsi. L'Éternel dit, verset 3 du chapitre 20 d'Ésaïe, « De même que mon serviteur Ésaïe marche nu. » Entendez bien, il n'était pas tout nu. Il avait juste, comme je vous l'ai dit, ce vêtement sous-vêtement. « Marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et l'Éthiopie. » En fait, le peuple d'Israël avait traité une alliance avec l'Égypte et l'Éthiopie en disant « Si les Assyriens viennent nous combattre, vous nous défendrez. » C'était l'OTAN de l'époque. Sauf que Dieu est en train de dire à ces gens-là « L'Égypte et l'Éthiopie vont tomber par l'invasion du roi d'Assyrie. Et vous comptiez sur eux pour vous délivrer des Assyriens ? C'est sur moi qu'il faut compter, ce n'est pas sur eux. » Alors en fait, en prenant cette attitude-là, Ésaïe doit laisser paraître un message « Vous êtes condamnés. Si vous vous confiez dans les hommes, vous êtes morts. Vous ne vous en sortirez pas. » Ça a duré 3 ans. L'humiliation, 3 ans. L'intercession, 3 ans. Ça n'a pas duré un quart d'heure. Ça n'a pas duré une demi-heure dans la semaine. 3 ans, jour et nuit. Jour et nuit, jour et nuit. Ézéchiel, c'est encore pire d'une certaine manière, ce qui a pu lui arriver. Ézéchiel 24, il est dit ceci, je vais le lire pour vous. Ézéchiel 24. Et verset 16, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil des morts, attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds, ne te couvre pas la barbe et ne mange pas le pain des autres. J'avais parlé au matin au peuple. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Le lendemain, le peuple me dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais ? Je leur répondis, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, voici, je vais profaner mon sanctuaire. L'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme j'ai fait, vous ne couvrirez pas la barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres, bref, vous ne pleurerez pas, mais vous serez frappés de langueur pour vos iniquités. » Tout le monde était dérangé, gêné, offusqué. Ézéchiel ne porte pas le deuil de son épouse qu'il venait de perdre, ce qui faisait le délice de ses yeux. Et ils vont lui dire, mais t'as pas honte ? Porte le deuil ! T'as pas honte de faire ça ? Il dit, non, je suis obligé de le faire pour vous. Parce que dans 4 matins, c'est Jérusalem qui sera détruite. Et parce que vous vous êtes plus confiés dans vos forces plutôt que dans l'aide de Dieu, ça ne marche pas pour tenir debout. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. Et ça, vous ne vous en rendez même pas compte. Vous faites comme si tout allait bien, vous êtes fiers. Eh bien, demain viendra le temps, vous n'arriverez même plus à pleurer, tellement vous serez abattus et détruits. Il faut le dire, ce message. Malheureusement, j'ai envie de dire, il faut le vivre. Il faut le vivre quand même. Quelle détresse. En fait, la ville va être détruite, dévastée, et il va l'expérimenter par sa propre vie. Alors, Galates chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Jean chapitre 12 nous rappelle quelque chose d'important. Jean chapitre 12 et verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et chapitre 14, verset 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Bien-aimé, vous êtes mort au péché, mais concrètement, c'est Jésus qui est mort pour toi. C'est pas toi qui es mort pour toi. C'est Jésus qui est mort pour toi. Et si jusqu'à maintenant, tu n'as pas réalisé la souffrance de ceux qui t'entourent, tu n'as fait que profiter des temps d'adoration et de culte pour te réjouir avec l'Église et tes frères et sœurs, et ça fait partie du plan de Dieu. C'est extraordinaire de faire ça. Tu as peut-être pris un peu de temps pour prier, pour que ceux qui vivent autour de toi vivent un peu moins dans le malheur, soient au moins un petit peu soulagés. Mais en fait, je te repose la question, est-ce que tu es réellement et tu as réalisé que tu es mort, crucifié avec Christ? Je pense qu'une fois qu'on a été crucifié, plus rien ne peut nous atteindre, n'est-ce pas? Plus rien ne peut nous toucher, une fois qu'on a goûté à la mort. Alors, c'est vrai que prier, c'est ingrat. C'est vrai qu'intercéder, ça ne tombe pas sous le sens. Parce que ça demande tellement d'efforts, tellement d'efforts, tellement d'efforts. Vous le savez très bien, c'est dur d'intercéder. Est-ce qu'un jour il va nous sortir des grumeaux de sang dans un temps de prière, dans un temps d'intercession, pour que quelqu'un soit arraché à l'enfer pour enfin aller au ciel, soit arraché à sa détresse, à sa maladie, pour enfin être guéri, enfin avoir la vraie vie, une vie normale? Bien-aimé, je crois que c'est là où Dieu nous attend. C'est là où Dieu nous attend. Alors voyez, aujourd'hui, ce n'est pas dimanche, c'est vendredi. Ce n'est pas le culte, c'est la réunion de prière. Je voudrais vous lancer un appel. Je voudrais qu'on s'incline ensemble. Et je voudrais vous lancer un appel. Ça me paraît essentiel. Un appel. Ce que je vous dis, évidemment, je me le dis à moi. Je me le suis dit à moi. C'est moi le premier concerné, bien évidemment. Et j'aimerais vous dire que si jusqu'à présent, vous n'avez fait que prier, sans jamais intercéder, si vous n'avez pas saisi la différence entre prier et intercéder, c'est que vous n'avez pas pris suffisamment à cœur la situation du monde qui meurt. Vous ne vous êtes pas identifié à ce monde qui mourait. Vous n'avez regardé qu'autour de vous. Vous n'avez regardé que la sphère de ceux qui vous entourent, de ceux qui vous environnent. Et vous n'avez peut-être jamais, avec grand cri, avec larmes, avec supplication, invoqué l'Éternel. C'est aussi sans doute pour cela que vous n'avez pas été exaucé comme vous le vouliez. Il y a une espèce de frustration en vous, parce que ça ne marche pas, ce n'est pas terrible, je m'attendais à plus depuis le temps que je connais la grâce de Dieu. Bien-aimé, avez-vous accepté de vous faire pauvre pour le salut des autres? Avez-vous accepté de vous identifier à ceux qui galéraient, à ceux qui étaient dans la difficulté? Je dois m'identifier à celui qui souffre pour entrer dans l'intercession. Je dois m'identifier à celui qui souffre, sinon ça ne marche pas. Si j'entre dans l'intercession aujourd'hui, je goûterai au combat, mais je goûterai aux victoires également. Je goûterai au combat, mais je goûterai aux victoires. On ne peut pas, c'est pas normal de se satisfaire et de finir par se dire la prière, d'accord, mais bon, j'ai du mal à y croire. Je vous en supplie, bien-aimés, arrêtons de prier, commençons à intercéder. Arrêtons de prier, commençons à intercéder. C'est une nécessité. Si jamais vous n'avez été crucifié avec Christ, et je me le dis à moi-même, alors viens Seigneur, fais-moi vivre cette réelle expérience. Pendant que l'on va chanter un chœur, sous forme d'appel, en somme, ce chœur-là, je vous demanderai juste une chose. Mais faites-le sincèrement, faites-le avec bonheur, avec intégrité. Je m'adresse à vous, qui comprenait vos lacunes, qui avait saisi le décalage qu'il y a entre ces exemples bibliques et votre vie de tous les jours. Et j'aimerais vraiment que vous fassiez un pas vers Dieu en disant « Seigneur, pardonne, ma lâcheté, pardonne mon insuffisance, pardonne ma négligence, pardonne mon manque de courage, pardonne mon manque d'effort, pardonne mon manque d'engagement, pardonne, pardonne, pardonne. Mais pour qu'il pardonne, il faut vous repentir. Et pour que votre repentance prenne un effet concret, je vous demanderai juste une chose, c'est de vous lever à votre place, comme pour dire « Seigneur, je viens m'offrir à toi maintenant pour que tu changes cette situation, que je vive autrement, que je ne vive plus comme cela, que je vive autrement. » Mais il faut que ça déclenche quelque chose de concret maintenant, il faut que ça déclenche quelque chose de réel. Et je pense que si c'est le cas, vendredi soir, on sera le même nombre que ce matin aujourd'hui. Parce que vous aurez conscience que la réunion la plus importante, ce n'est pas le culte. C'est sans doute pour un temps seulement, la réunion de prière. La réunion de prière. Renouer le contact avec Dieu. Reprendre la main sur vos lassitudes, reprendre la main sur vos langueurs. Reprendre la main sur vos défaites, vos difficultés, vos douleurs. Reprendre la main sur tout ce qui a raté autour de vous. Reprendre la main. Et je veux être fatigant. Je veux être énervant. Je veux être tourmentant, non pas pour mon ami, non pas pour Dieu, mais pour mon ennemi. Et je voudrais qu'au nom de Jésus, et je veux que le grain meure ce matin, je voudrais qu'au nom de Jésus, la semence puisse germer et qu'un grain emporte 10 et 100. Et que la grâce de Dieu se manifeste, que la semence se multiplie. Et qu'ainsi, à chaque fois que j'intercède, je sente le cœur de Dieu battre. Je sente les flammes de l'enfer aussi pour me dire « Je ne veux pas que mon cousin, ma cousine, mon conjoint, que sais-je, quelqu'un que je connais ou même que je ne connais pas, je ne veux plus que personne aille en enfer, mais je veux qu'il découvre la grâce et le salut. Viens, pardonne mes erreurs, pardonne mes fautes, pardonne ma négligence et change-moi, Seigneur.